se rappelle que pendant les congrégations générales qui ont précédé le conclave, la réforme de la curie est venue s'imposer dans les débats. Beaucoup de cardinaux du bout du monde, comme on disait à ce moment-là, voulaient que s'arrête cette série de scandales ou d'affaires comme le Vatilix et imposaient en quelque sorte au futur pape une réforme de la curie. Le pape François a évidemment entendu tout cela. On constate qu'il a choisi de ne pas se précipiter. Il aurait pu, après tout, changer quelques têtes, remanier spectaculairement deux ou trois dicastères pour montrer quelle était la voie. Non, il a choisi de faire un peu comme Jean-Paul II avait fait avec les finances du Vatican. Rappelez-vous, Jean-Paul II lui-même avait convoqué comme ça une quinzaine de cardinaux pour traiter le problème au fond. C'est ça qu'il faut souligner, me semble-t-il. Le pape François entend bien traiter le problème au fond, c'est pour ça qu'il prend son temps et qu'il prend la décision de ne pas gouverner tout seul. Il s'entoure des cardinaux, c'est plutôt bon signe pour l'avenir, mais ça ne nous étonne pas quand on sait que ce nouveau pape, en effet, est plutôt quelqu'un qui n'est pas un solitaire.
Quelles sont les pistes envisageables et envisagées pour réformer la curie romaine ?
C'est un peu tôt encore pour le dire. On sait bien que la curie, il va falloir la simplifier. Il va falloir peut-être lui donner des objectifs un peu plus collectifs. On sait qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la curie, c'est que chaque dicastère accomplit sa tâche dans son coin et qu'il y a très peu de relations horizontale entre les congrégations et les préfectures. Il reste encore à savoir quel sera le secrétaire d'État qui va piloter cette réforme. On imagine probablement qu'un nouveau secrétaire d'État sera nommé qui aura pour tâche de coordonner justement cette réforme de fond de la curie. On a remarqué que le pape François a reçu de façon très personnelle, très sympathique, comme il nous habitue, les personnels de la secrétairie d'État il y a quelques jours, les 300 personnes, il les a vues une par une. Donc on se doute bien que là aussi, il a quelques idées en tête.
On peut s'attendre à des résistances, à des oppositions à cette volonté de réforme ?
Il y aura forcément des oppositions et des résistances. On ne réforme pas une administration comme la curie sans que cela provoque quelques changements gênants pour les uns ou pour les autres, que ce soit à titre personnel ou quelqu'un aura peut-être d'autres idées ou d'autres intérêts, ou bien à titre collectif parce que certaines congrégations ou certains dicastères sont habitués à travailler de façon tranquille. Toute réforme provoque évidemment des résistances.
C'est la réforme à partir de laquelle tout va pouvoir prendre son sens et être décidé. C'est la réforme principale qui était attendue, celle de la curie romaine ?
Non, je ne crois pas qu'il faille considérer la réforme de la curie comme la réforme principale du nouveau pontificat. Le nouveau pontificat a des objectifs, a des ambitions beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges que la simple réforme d'une administration, fût-elle en effet quelque chose d'important. La réforme de la curie est visiblement lancée, elle n'est pas le but premier du nouveau pape. Le but premier du nouveau pape, c'est de relancer l'Église dans le sens de la mission, dans le sens d'une nouvelle évangélisation sur des bases innovantes. La réforme de la curie n'est jamais qu'une réforme secondaire. Il ne faut pas perdre de vue que l'essentiel du métier de pape, c'est quand même d'abord d'annoncer l'Évangile et non pas de réformer son administration.